Comité. Il a le regard vif, pointu, aiguisé, brillant comme une lame. Un corps fort, celui d'un lutteur, la voix grave et le ton précis. Tony Comité a beaucoup vu. D'abord derrière le viseur d'un appareil photo, puis celui d'une caméra, avant de créer, à 43 ans, sa propre société de production. Il a d'abord connu l'école des faits divers, avant de s'installer à Bogota pour travailler sur l'Amérique du Sud et ses violences. Chili, Salvador, Venezuela, à chasser les histoires, à voir, à raconter. Puis ce fut l'Iran et la guerre Iran-Irak, le Liban, le Tchad et tant d'autres conflits. Ce grand reporter a collectionné les grands coups et les distinctions. Tony Comité se livre ici, pas à pas, dans la durée, avec vigueur quelquefois, émotion souvent. Cet entretien est présenté en 5 parties distinctes. Premier épisode, Tony Comité, le photographe. Tony Comité a 18 ans en 1968 lorsqu'il fait ses classes de photoreporter à France Soir, celui de la grande époque, et à détective, avant de s'installer à Bogota et à vivre de nombreux conflits. Il parle ici avec précision de France Soir, de SIPA, du Chili et des révolutions, du général Somoza, du Panama, du Salvador et de la prise d'otage d'une ambassade de France.
François, c'est à l'époque, c'est rue Réaumur, il y a l'imprimerie qui est là, dans la rue Réaumur, avec des imprimeurs. François, c'est jour et nuit, c'est 40 photographes, c'est un labo qui tourne jour et nuit, il y a 5 ou 6 éditions par jour, je crois qu'à un moment ils en ont eu 7, c'était ce qui était énorme à l'époque. Et le journal, je l'ai connu, François, qui se vendait à la criée. C'est ce monde-là, moi, qui m'a passionné. L'odeur de l'encre. Le matin, le petit café avec les imprimeurs à 5h du matin et les motos qu'on nous envoyait en moto, en reportage dans Paris. Voilà, à l'époque, on rentrait avec la pellicule, on mettait la pellicule dans un bain et puis il fallait tirer les photos. Et parfois, on tirait les photos mouillées. On les amenait à l'imprimerie mouillées parce qu'on n'avait pas le temps. L'édition arrivait, il fallait mettre les photos tout de suite dans le journal qui partait avec des livreurs. C'était incroyable. Et puis, moi, j'aimais la photo déjà jeune. J'allais dans des expos de photos, j'avais Georges Ménager de Match m'avait donné un Nikon avec un 28. Il me dit voilà, je sens que t'aimes bien ça, il faut au moins que t'aies un appareil. Donc il m'avait fait ce cadeau, tu me le rendras quand tu pourras. Et puis un jour, il y avait les inondations à Paris, la Seine était, il y avait des crues énormes. Et j'avais une vieille bagnole, une vieille Austin qui était en panne. Donc je l'amène chez le garagiste et je lui demande qu'est-ce que vous allez faire, vous, je vois que vous partez en dépannage, vous n'allez pas sur les quais de Seine. Il me dit si justement je vais sortir des voitures qui sont inondées sur la Seine. Donc je lui dis est-ce que je peux vous suivre? Bien sûr, monter à bord de ma dépanneuse. Nous voilà partis sur les quais de Seine. Le garagiste monte sur le toit d'une voiture qui était sous l'eau. Je commence à faire des photos, il glisse. Il tombe à l'eau, il est emporté par le courant, par les crues de Seine. J'ai fait 5 photos, je n'ai pas trop bien nagé, je ne sais pas ce que j'allais faire d'autre. Et il a disparu. On a retrouvé son corps 2 jours après. Donc je rentre au journal, et ils regardent les photos, et ils font 6 colonnes à la une. Le drame, le premier drame des inondations à Paris. Voilà, donc ça c'était la première photo, et 15 jours après, je me rebalade sur les quais de Seine, et il y a une femme qui saute d'un pont, et qui se suicide, qui est restée accrochée comme ça pendant 10 minutes sur le pont. Donc j'ai fait des photos, pareil, j'ai fait 4 colonnes à la une sur les photos. Je suis devenu un peu comme ça dans le milieu du reportage, voilà, par le labo et après comme photographe. De François, j'ai passé un an à détective, où j'ai vraiment appris le fait divers. C'est un journal incroyable, détective. Aujourd'hui, on pourrait plus faire ce type de reportage, hein, avec les procès, le CSA, toutes les lois qui encadrent la liberté aujourd'hui, donc de la presse. Donc j'ai vraiment appris l'école de la rue et du fait divers, parce que je considère, ce que je dis à mes équipes, que même si on couvre la Syrie, si on couvre des événements internationaux, il faut le couvrir par l'humain, et uniquement par l'humain, parce que, et notamment dans le magazine. Il faut des histoires, il faut raconter des histoires humaines, parce que la géopolitique, les gens ils comprennent rien, ou bien ils le disent dans les journaux, mais la télévision aujourd'hui, c'est des histoires humaines. Donc ce que j'ai appris à Détédil, il y avait un sacré patron, on rentrait pas sans les photos au journal. Hein. C'était pas la peine, on était viré. S'il n'y avait pas les photos de l'histoire, on rentrait pas, on n'était pas payé, et voilà. Et il s'appelait Monsieur Belair, ce personnage, ce patron de presse. Donc, mais voilà, on a appris, j'ai appris le fait divers, quoi. Et le fait divers, c'est l'école de la rue. C'est l'école de l'humain. Voilà, savoir convaincre des gens, s'intéresser à leurs histoires, comprendre, parfois aimer des gens qui sont compliqués à aimer. C'est ça le fait divers. Et voilà, donc après ça, je suis rentré chez SIPA. Chez mon ami Gökçin Sipayoglu, regretté Gökçin, qui m'a appris vraiment après le travail de grand reporter, quoi. En septembre 73, c'est le coup d'État du Chili. Ça, c'est Gökçin qui m'envoie à Santiago. Donc, depuis Bogota. À l'époque, l'avion d'Air France faisait Paris, Bogota, La Paz, Santiago. C'était ces grandes lignes internationales qui faisaient sans changement d'équipage. Hein. C'était à l'époque. Et en arrivant au-dessus du Chili, le commandant de bord dit l'aéroport vient de fermer, donc on va se poser à Buenos Aires. Je dis, oh putain, merde, là je suis battu, quoi. Donc on se pose à Buenos Aires, et on me dit à Buenos Aires, où je rencontre beaucoup de journalistes, hein, puisque on était en pleine. Il y avait eu déjà 33 tentatives de coup d'État, hein, donc avortées. À mon avis, des essais montés par la CIA, parce que le coup d'État du Chili s'est monté par la CIA, bien sûr avec l'appui de l'armée chilienne, excellente armée, formée par les Allemands, faut quand même pas oublier. Et Buenos Aires, Mendoza, et là la frontière aussi est fermée. Donc c'était un peu compliqué pour rentrer au Chili. Je suis rentré par un avion. Je m'étais lié d'amitié avec un steward entre Bogota, entre Buenos Aires et Mendoza, la frontière chilienne. Je me suis lié d'amitié comme ça, en discutant avec lui. Et il m'a dit, moi je peux demain voir à l'aéroport s'il y a des avions qui partent au Chili, des avions de marchandises, je sais pas quoi, des cargos. Et le lendemain, il m'a fait monter dans un avion qui transportait de la viande. Donc froide. Donc j'ai fait un vol à moins 10. Et je suis descendu, l'avion s'est posé à Santiago, je suis descendu avec les bouchers, avec les livreurs de viande, et on ne m'a rien demandé. Je suis arrivé à la frontière, à la police chilienne, j'ai donné mon passeport, on m'a dit, vous êtes journaliste? Je dis oui, on dit allez-y, rentrez. En fait, ils avaient fermé les voies officielles, mais celui qui se débrouillait arrivait à passer, en fait. Hein. Sur place, il y avait déjà Christian Simon Pietri, de Sigma, Jacques Segui de France 2, avec son équipe. Voilà, donc c'était un peu dur le Chili, parce que c'est terrible les guérillas, parce que on sait jamais, il n'y a pas de front. Ça part dans tous les sens, d'une rue à l'autre, d'un village à l'autre. Là au Chili, l'ordre était arrivé, et ça sentait le coup d'État, ça sentait l'ordre. Donc la répression se faisait très discrètement, et notamment dans le stade de Santiago du Chili. C'était très compliqué, parce que les autorités chiliennes avaient organisé des bus pour qu'on puisse... Parce que notre demande était d'aller voir les prisonniers politiques. Il y en avait plus de 1000 hein, dans le stade. Hein. Donc on faisait des tours autour du stade avec le bus toute la journée. Et on rentrait jamais dans le stade. Donc ça a découragé beaucoup de journalistes. Et puis finalement, avec David Burnett, on a insisté un petit peu. Et à un moment, les militaires nous ont mis dans les mains de la Croix-Rouge, qui devait rentrer dans le stade. Donc on est passé par la Croix-Rouge. En fait, l'appareil, j'ai mis une blouse blanche. Et avec un petit écart discrètement, j'ai fait des photos qui sont connues, quoi, des photos dans le stade de Santiago. J'étais avec David Burnett de Magnum. Je crois qu'on devait être les deux seuls photographes qui ont pu pénétrer à l'intérieur du stade. Alors évidemment, ces photos ont été publiées. C'est arrivé au Chili, là j'étais arrêté. et expulsé pieds nus. On m'a foutu on m'a ramené à la frontière, même de ça. Et on m'a enlevé mes chaussures et le militaire chilien, l'officier m'a dit, il m'avait mis une cagoule sur la tête. Donc je ne savais pas trop où j'allais atterrir. Et il m'a dit, no se necesita comunista aquí. J'ai dit, mais je ne suis pas communiste, je suis journaliste. Il me dit, tu es un journaliste communiste. J'ai été interdit de séjour pendant 13 ans. Il y a eu le Nicaragua, il y a eu la révolution des 110, ça c'était très très dur aussi. Très dur parce que les maquis étaient très difficiles. C'est de la jungle et de la montagne. Jungle et montagne en permanence, avec des types qui marchent toute la journée. Des combats, ils sont 10, ils vont attaquer un piton où il y a 200 types. Il faut repartir en courant, eux ils savent, moi... Ah oui, c'était ça les guérillas au Salvador. Hein. Ils attaquent un poste de police et puis ils se tirent. Donc, et puis vous avez intérêt à suivre, hein, sinon ils ne vous amènent pas. Donc c'était très très dur. Hein. C'était un petit peu un peu difficile cette période. Beaucoup de morts, beaucoup de des choses horribles. L'armée nicaraguayenne de Somoza avait mis des pièges à ours dans les montagnes. Donc on entendait, c'est terrible un piège à ours, parce que ça vous tue pas, mais ça vous déchire la jambe. Donc il faut, ça blesse un homme, il en faut deux pour vous ramener dans les bases arrières. Donc ça fait trois hommes en moins. Et c'était terrible parce qu'on entendait de temps en temps dans les collines des hurlements, c'est un piège à ours. Et donc là j'ai passé, je pense, près d'un an à faire des allers-retours au Nicaragua pendant la révolution. Et je suivais le front nord avec le commandant zéro, qui s'appelait Eden Pastora, dont j'étais avec lui en fait. Donc je rentrais au Nicaragua par le Salvador pour rejoindre les maquisards, si vous voulez. Parce qu'impossible d'être passé par Managua, alors là, c'était, les journalistes n'étaient pas très bienvenus, surtout ceux qui allaient dans les maquis. Et les hommes de Zéro venaient me chercher, du commandant Zéro venaient me chercher à la frontière et m'amenaient au combat avec eux. Et je suis rentré à Managua avec lui, sur sa Jeep. D'ailleurs, quand on voit la photo de Zéro, du commandant Zéro dans Managua, il y a un photographe assis en tailleur sur sa Jeep, c'est moi. Voilà. Donc ça, c'était invraisemblable. Le jour de la révolution du Nicaragua, c'était incroyable, quoi. Des millions de gens dans les rues, quoi.
Est-ce qu'il tombe, Somoza, quoi ?
Ah ben, Somoza, que je retrouve, d'ailleurs, plus tard. Notre ami Somoza, Anastasio. Ah oui, il tombe, il fuit. Il fuit le pays. Attendez, c'était quand même un sacré loustique. Hein. Il donnait ses ennemis à manger aux crocodiles, quand même. Hein.
Non. Et vous le retrouvez quelques années plus tard.
Et je le retrouve quelques années plus tard. Alors là, c'est aussi un coup de chance incroyable. Tout le monde cherche Somoza à Miami. Tout le monde est absolument persuadé qu'il est protégé par la CIA, ce qui était vrai. Donc il est forcément aux États-Unis et notamment à Miami, qui est un peu la capitale sud-américaine des États-Unis. Tout le monde le cherche là-bas. Bon, moi je le cherche pas trop. Moi je continue mes reportages avec les révolutionnaires. Je suis le commandant Zéro qui quitte la révolution parce qu'il ne s'entend pas avec les autres généraux de la révolution. Il va monter une usine de pêche au Costa Rica, donc je vais le voir un peu de temps en temps. Et puis l'agence m'appelle pour me dire, écoute, on a une exclusivité au Paraguay avec Pecci, le tennisman. Souvenez, c'était Pecci, un grand tennisman. Il y a une boucle d'oreille, c'est un des premiers tennisman. Il y avait un diamant dans l'oreille. Tout le monde disait que c'est grâce à ce diamant qu'il gagnait les matchs. Bon. Et Chelon, à l'époque, exactement. Et donc je rejoins Pecci à Asunción. Asunción, à l'époque, c'est un trou, quoi. Il se passe jamais rien à Asunción. Donc, et c'était vraiment... il faisait 35-40 degrés toute la journée. Donc je fais le mariage de Pecci. Et le témoin de mariage, c'est le général Strochner, qu'on ne voit peu, qui donne peu à l'époque de photos, d'interviews. C'est un type plutôt discret, un dictateur bien sûr, mais qui ne s'expose pas aux médias. Et le témoin de mariage, c'est le général Strochner. Donc, grâce à Pecci, j'ai pu faire un reportage sur le général Strochner, inédit. Personne n'avait jamais fait un truc comme ça, où je l'ai en train de se faire photographier, en train de se faire cirer les chaussures, chez lui, en train de jouer de la guitare, enfin, tout un feature sur lui, comme ça. Et je vais voir, comme j'avais pris l'habitude, l'ambassadeur de France à Asunción, qui me dit, bah, je viens d'apprendre que vous avez fait un reportage sur le général Strochner, vous savez que c'est exclusif. Je dis oui, je pense que ça va intéresser les journaux. J'ai appelé mon agence, ils sont très contents, je vais envoyer ça demain par avion, parce qu'à l'époque, hein, on mettait la pellicule à l'avion. Et je discute avec l'ambassadeur qui m'invite dîner, et qui me dit, avant de partir, vous rentrez quand à Paris? Je dis, écoutez, j'ai terminé, mariage de Pecci, le général Strochner, j'ai fait le boulot, je rentre à Bogota. Et il me dit, je vous conseille pas de rentrer. Monsieur l'ambassadeur, lorsqu'un ambassadeur dit ça, c'est qu'il va y avoir ou un coup d'État, ou une révolution, ou un truc énorme. Il dit, non, franchement, je vous conseille pas de rentrer demain. Je dis, bon, ben j'annule mon vol, monsieur l'ambassadeur. Il dit, venez me voir vers 10h. Je reviens le lendemain, et l'ambassadeur me reçoit dans son bureau. Il me met sur un petit papier une adresse. Somoza vient d'arriver à Asunción. Tout le monde le cherche à Miami. Donc, je lui dis, il ne se passe jamais rien à Asunción. En 4 jours, je fais 2 coups, peut-être 3. Je trouve ça incroyable. Il me dit, allez-y discrètement. Donc, je prends un taxi. C'était dans la banlieue résidentielle de Asunción. Je passe devant l'adresse. Le taxi, voilà, et je remarque un immeuble qui était en construction juste devant la propriété où théoriquement se trouvait Somoza. Donc j'avais à l'époque des gros télés, là. Je grimpe dans cet immeuble en construction, je croisais des ouvriers, buenas dias, buenas tardes, como esta, nanana. Et je regarde un petit peu à travers les murs de la propriété, au-dessus des murs de la propriété, et qu'est-ce que je vois en peignoir au bord de la piscine? Somoza. Que tout le monde cherche dans le monde, il est recherché. Donc je sors mon 600 mm, je fais de la couleur, du noir et blanc, et il me voit. Il me voit, il me fait une révérence, et il me fait signe de rentrer, de venir. Donc je rentre dans la maison, et là il me donne une interview, mais à l'époque moi je fais que la photo, les interviews c'était pas mon truc, que les Américains l'avaient lâché, que... Le seul pays qu'il avait reçu, c'était son ami Strochner. Ça me rappelle le bouquin de García Márquez. Bientôt, tous les dictateurs d'Amérique du Sud vont se retrouver là. Je vais monter mon bureau ici. Et voilà, il me reçoit. Et je fais les photos de Somoza. Donc, je rentre. Je repasse même pas par l'ambassade. Je fonce à l'hôtel. J'appelle l'agence. Je dis, putain, c'est incroyable. Vite, tu rentres à Paris avec la péloche. Je fais Asunción, Buenos Aires. Et là, c'est... énorme, je vois toute la presse descendre, tous les copains qui descendent de l'avion d'Air France, dont Le Doru de Sigma, qui me dit t'as pas fait Somoza? J'ai dit j'ai tout Coco, j'ai tout, je rentre. Et là, là c'est une grande joie quoi. On se dit bon, on est seul, ils vont mettre au moins 10 heures pour le retrouver, ils sont marrons quoi, ils sont marrons. Voilà, comment j'ai retrouvé mon ami Somoza. Je me trouve à Panama, une commande de Stern pour faire le portrait de Omar Torrijos, dictateur du Panama à l'époque. Donc j'arrive à Panama et voilà, on était tombé d'accord pour faire un feature sur le général Torrijos. Et puis je suis dans son bureau et il me tend un telex. Il me dit, tu devrais partir au Salvador, ils ont pris ton ambassade en otage. Je regarde le telex. Effectivement, ambassade de France prise en otage par les guerrilleros à San Salvador, ça se trouve à une demi-heure d'avion de Panama. Je lui dis, mon général, j'y vais et je reviens terminer mon reportage avec vous. Et il me dit, je vous envoie une voiture pour aller à l'aéroport. Donc me voilà parti à San Salvador. La ville était en pleine révolution. Les guerrilleros avaient attaqué la ville, l'ambassade de France est prise en otage. Et lorsque je sors de l'aéroport de San Salvador, j'ai vu... Il y a une image que je me souviendrai toujours, l'armée salvadorienne qui tendait des barbelés juste derrière moi. Quand mon taxi a quitté l'aéroport, j'ai vu les barbelés se mettre, des herses se mettre. Ils étaient juste en train de fermer l'aéroport, donc de fermer le pays. Me voilà dedans. Et le chauffeur de taxi me dit « Ah, je vois que vous êtes photographe, parce que j'avais mon sac et tout. » Il me dit « Oh là là, ça va très très mal. Ils sont en train de massacrer des gens sur la place de la cathédrale. » Je dis « Ben, on y va tout de suite. » Il me dit « Non, je n'irai pas, mais je vais vous laisser à côté. » Donc, je suis arrivé sur la place de la cathédrale de San Salvador. Et là, c'était épouvantable. L'armée salvadorienne tirait sur la foule. Donc, je me suis mis... J'étais juste devant les portes de la cathédrale. Je me suis mis sous une voiture. Et j'ai vu des scènes hallucinantes. Les gens qui essayaient de rentrer dans la cathédrale pour se protéger des tirs de l'armée. Et des scènes incroyables où des gamins... jetaient leur carte d'identité, ils prenaient des balles dans le dos et en même temps ils jetaient leur carte d'identité pour pas qu'il y ait de répression sur leur famille derrière. C'est incroyable comme situation. Et il y avait ceux qui étaient à l'intérieur, réfugiés à l'intérieur de la cathédrale, qui fermaient la porte et ceux qui essayaient de rentrer. Donc ça hurlait partout, il y a eu 60 morts hein, devant moi, sur les marches de la cathédrale. Donc c'était des photos importantes. Pas question de se faire prendre. Donc je suis resté sous une voiture, j'ai attendu là 3 heures, j'étais le seul journaliste là, le seul photographe. Il y avait une caméra de la télé salvadorienne qui était un peu plus loin, aussi cachée sous une voiture. J'entendais les impacts de balles dans sur la voiture dans laquelle j'étais planqué. Et j'ai dit, comment sortir de là? Donc la fusillade s'est arrêtée et j'ai vu arriver la Cruz Verde qui est la croix rouge française, mais là-bas ça s'appelle la croix verte. Donc les ambulances sont arrivées devant la cathédrale et je me suis montré, j'ai vu des médecins qui étaient là, je me suis montré, il y a un des médecins qui a tout compris, il m'a fait signe de rentrer dans l'ambulance. Donc j'ai rampé jusqu'à l'ambulance et je suis sorti de la zone encerclée par l'armée. Je n'avais même pas encore d'hôtel, donc j'ai trouvé un petit... puis pas beaucoup de sous, hein, à l'époque, on travaillait avec $500 dans la poche. Hein. Donc j'ai trouvé un petit hôtel. Mais comment expédier les films? Ça, c'est le problème. Comment, puisque l'aéroport est fermé, à l'époque, il n'y a pas les satellites, il n'y a pas le numérique, j'ai 10 films, couleur et noir et blanc. Comment les expédier? Donc, ça, c'était le problème. Je suis resté 4 jours... à San Salvador sans pouvoir expédier. Donc j'ai appelé mon agence, à l'époque c'était, je travaillais là pour Gamma à ce moment-là, et ils m'ont dit écoute, il faut absolument que tu expédies, essaye par la route, par le Nicaragua, c'est quand même long, c'est une journée de voiture pour y aller. Donc finalement l'aéroport s'est réouvert, doucement, petit à petit. Donc je suis parti à l'aéroport. J'ai mis mes films dans un vol de Aeromexico en me disant à la grâce de Dieu. J'ai donné ça à un pilote d'Aeromexico pour qu'il remette ça à un pilote d'Air France à Mexico. Vous voyez un peu le... Eh bien, les films sont arrivés. Une semaine après, c'est arrivé à Paris. Et bon, je continue à couvrir les événements à San Salvador. Et... j'ai reçu un coup de téléphone en pleine nuit de chef éditeur de Newsweek magazine qui me dit « You are Tony Committee ?» Yes. Il me dit « Congratulations, vous faites la couverture de Newsweek et 10 pages couleurs. » Je venais de gagner ce pari. C'était formidable pour moi parce que je n'avais jamais d'abord fait de couverture d'un magazine américain. Et en plus, voilà quoi, les risques que j'avais pris et puisque je montrais... Aller sortir et être publié, ça c'était super important. Je faisais en même temps des papiers pour RTL, le matin, avec mon ami Jacques Chaput, qui était le patron de RTL à l'époque. Donc mon ambassade était prise en otage, donc je couvrais aussi l'histoire de l'ambassade. C'était dingue, parce que l'armée entourait l'ambassade de France. Et à un moment, j'arrive à l'ambassade de France, et je ne pouvais pas ni pénétrer, ni trop m'approcher. Il y avait une pharmacie qui était juste devant l'ambassade de France. Et un des militaires vient me voir. Il me dit « Vous parlez l'espagnol ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit Vous pouvez nous servir d'interprète avec l'ambassadeur ? J'ai dit, ben, si vous voulez. Donc il m'escorte jusqu'au pied de l'ambassade, et c'est une petite ambassade, hein, et il y avait l'ambassadeur à la fenêtre qui me disait, je voudrais des journaux. Alors je dis aux militaires, ils veulent des journaux, pas de problème. Je leur ai posé une question, comment êtes-vous traité ? Nous sommes bien traités, je voudrais juste des journaux, me dit l'ambassadeur. Et là, j'ai eu une idée. Donc les militaires m'ont dit, bon, il faut aller lui acheter des journaux, hein, s'il veut des journaux. C'est tout ce qu'il a besoin ? Oui, c'est tout ce qu'il a besoin. Hein. Il veut des journaux. Donc je suis allé acheter les journaux locaux, parce qu'il n'y avait pas de presse internationale. Et je les ai montés avec un petit panier et une corde qui était tirée par la fenêtre. Et en dessous des journaux, j'ai mis un boîtier avec un 24 et un flash. Donc les journaux sont montés, j'ai attendu, et puis 2 heures après, j'ai vu des coups de flash partir à l'intérieur de l'ambassade, et j'ai pu faire ces photos des Français bâillonnés, assis sur des chaises, et avec les guerriers roses qui posaient. Quoi. Donc ils m'ont redescendu sous du papier mes boîtiers, l'armée salvadorienne n'a rien vu du tout. Alors j'étais très content aussi de ce petit scoop. Et je faisais donc des papiers pour RTL le matin, et TF1 décide d'envoyer une équipe au Salvador. Donc, et comme ils écoutaient mes papiers, le journaliste, voyant que je connaissais bien la zone, que j'avais des contacts avec l'armée, que j'avais des contacts avec les guerrieros et tout ça, m'appelle, il me dit, écoute, est-ce que tu veux partager la vie d'une équipe de télé ? Tu nous aides, il ne parlait pas espagnol, tu vas nous aider un peu l'interprète, et en plus, soit avec nous, tu pourras faire des trucs. Je dis, ok, moi, c'est super, ça, bien sûr. Et le caméraman, à l'époque, s'appelait Rock Pescadère, et me dit, écoute, prends ma caméra, je prends tes appareils. On va faire des petits échanges comme ça pour voir. Donc j'ai pris, c'était une caméra film, une Coutan, à l'époque. Et puis lui prenait mes appareils, donc de temps en temps, sur les fusillades, sur les manifestations, on changeait le matériel. Et puis je suis resté un mois avec eux. Et en partant, il me dit, écoute, viens nous voir quand tu rentres à Paris. Donc je crois que 2 ou 3 mois après, je rentre à Paris. Et j'appelle Rock Pescadère, le caméraman. Il me dit, écoute, viens voir le sujet, c'est génial, il y a 10 minutes à toi. Ah bon, il y a 10 minutes à moi, comme ça. Il me montre le sujet, effectivement, j'avais cadré des trucs. Ils avaient monté sur le 26 minutes, 10 minutes de mes images. Donc voilà, puis ils m'ont présenté à TF1. Et à l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. J'ai été reçu par d'abord le chef des caméramans, qui me dit, oui, c'est pas mal ce que t'as fait. Écoute, on a besoin de gars comme ça, qui parlent l'espagnol, qui couvrent des conflits. Et on m'a présenté à Jean-Louis Guillot, qui était le patron de TF1 à l'époque, qui m'a dit une phrase comme ça, il m'a dit « On a besoin de petits gars comme toi ». Et j'étais engagé à TF1, comme caméraman.
Ce son a été enregistré, monté, mixé, réalisé par Jean-Louis Vinet. C'est une production de www.aloeil.info. Vous pouvez retrouver tous nos sons, tous les podcasts sur www.a-l-oeil.info. Info au singulier. Là, vous aurez tous nos podcasts. Bonne écoute et à bientôt.